France Inter.
Aujourd'hui, la face obscure de l'univers, racontée par...
Hervé Dolle, astrophysicien, professeur et vice-président de la belle université Paris-Saclay.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Quand disparaissait le soleil et qu'une nuit sans lune, par temps clair, tombait sur la savane africaine où vivait Homo sapiens, pouvons-nous imaginer les sentiments de ce premier humain? Dans l'obscurité naissante émergeaient une à une les premières étoiles avant que le ciel entier n'en fût couvert et que leur lent mouvement d'est en ouest n'éteigne les unes pour allumer les autres. Avait-il peur de cette obscure et mouvante clarté? La stupeur l'envahissait-il ou peut-être une émotion tremblante face à ce spectacle à nul autre pareil? Il ne nous est guère aisé d'imaginer cette nuit primitive et son mystère peuplé de cris d'animaux qui bien plus tard se retrouveront dans les noms de constellations. Pendant des millénaires, l'expérience de cette nuit lumineuse a nourri les sentiments des humains, leur poésie et leurs rêves, leurs questions de science et leur philosophie. Hélas, aujourd'hui, cette obscurité féconde et profonde est devenue un bien rarissime, plus rare encore que le silence. Bien de nos contemporains n'ont jamais senti la nuit. Ils en ont peur, ils demandent aux édiles du plus petit village de montagne comme de toute ville d'inonder les rues de lumière artificielle. Et tant d'enfants grandissent privés de cette expérience fondatrice sans jamais avoir vu une étoile hormis le soleil, sinon sur un écran. Nous avons perdu la nuit, les astronomes ne la trouvent plus guère, même au sommet de hautes montagnes dans le désert, et nous dissipons vers l'espace en pure perte les mégawatts des éclairages urbains. Mais au fond, pourquoi la nuit est-elle noire? Pierre Léna, membre de l'Académie des sciences, août 2017.
Planètes, lunes et étoiles ne représentent que 5% de la masse totale de l'univers. Le reste se cache dans l'obscurité absolue. L'univers sombre est la partie invisible mais dominante de l'univers. Il comprend une substance appelée matière noire et une force appelée énergie noire. Malgré le mystère qui les entoure, ces deux entités nous aident à comprendre l'univers au-delà du visible.
Bonjour Hervé Dolle.
Bonjour Mathieu.
À l'instant, un document de National Geographic en 2024, vous qui publiez Le côté obscur de l'univers, c'est aux éditions Duno, en poche.
En poche.
Ça vient de sortir. C'est vertigineux quand même de savoir qu'il y a autant de vide dans l'univers, non? Est-ce qu'il reste encore tant de choses obscures à comprendre?
Ben oui, parce que cette obscurité, finalement, on la comprend très peu. On arrive à la modéliser, comme ça vient d'être dit. On arrive à quantifier des choses, un peu comme l'air dans cette pièce qui est autour de nous. On n'arrive pas à le voir avec nos yeux, hein, c'est trop petit, mais on sait qu'il y a de la pression, une température. Donc on voit sa présence à l'air, mais on n'arrive pas à le sentir plus que ça, sauf avec des instruments. Bah, l'énergie sombre et la matière noire, c'est un peu pareil. On sent leur présence, alors pas avec nos sens, mais avec nos instruments. On voit que c'est dominant, en tout cas c'est comme ça qu'on le comprend, et on se demande ce que c'est, et on est vraiment dans le flou, ça faut le dire.
Ouais, on reste dans le flou.
On reste dans le flou.
Ça fait un moment qu'on en parle.
Ça fait un moment. Bah, la matière noire, on fête quasiment ses 100 ans, hein, en tout cas du concept. L'énergie sombre, c'est un petit peu plus récent, c'est 98. Mais oui, c'est un peu notre problème. C'est à la fois un défi, une excitation, mais à la fois un gros problème.
Donc on arrive à conceptualiser, à prendre en compte quelque chose qu'on ne voit pas.
Complètement.
Et qui reste mystérieux.
On arrive à modéliser. Alors l'exemple de l'air, il est pas mal parce que si on s'en tient à nos yeux, hein, les molécules d'air, on ne peut pas les voir. On peut sentir la température, la pression, on peut sentir qu'il y a quelque chose quand on bat un éventail. Et puis, depuis le XVIIIe siècle, les gens, Lavoisier, etc., ont pu mesurer des choses sans connaître forcément la composition. Ouais. En astrophysique, on fait pareil, sauf qu'on ne touche pas les choses. Avec nos télescopes, on peut voir des effets indirects, la lumière qui est déviée, les étoiles qui tournent trop vite par rapport à s'il n'y avait pas plus de matière, etc. Et donc, on arrive à la conclusion qu'il manque une matière. Et depuis les années 70, avec Vera Rubin notamment, qui a fait des formidables observations, on se rend compte que ça ne peut pas être de la matière ordinaire. Sinon, on l'aurait vu, on a quand même des super télescopes, même si on ne voit pas tout, on a quand même des super instruments et plusieurs décennies d'observations. Donc on arrive à modéliser le fait qu'il manque quelque chose et on peut dire combien il en manque pour que tout soit cohérent. Alors il y a deux solutions, soit nos observations sont complètement foireuses, ce qui est possible, enfin pour l'instant on pense que les observations sont pas mal, soit la théorie est complètement foireuse aussi, alors là du coup c'est la relativité, c'est Einstein, on a un petit peu du mal à s'en départir, parce que ça marche quand même pas mal, hein, les ondes gravitationnelles.
Jusqu'à preuve du contraire, ça fonctionne pas mal.
Exactement, c'est le principe de la science, jusqu'à preuve du contraire. Et donc on se retrouve, la théorie on pense qu'elle est ok, les observations on pense qu'elles sont ok, donc il manque des ingrédients. Et en plus, un truc dont on parle pas souvent, la science, elle est élégante et elle aime la simplicité.
E égale MC2. Ça,
voilà.
C'est l'exemple de la beauté de la simplicité.
De la beauté, exactement. Alors, il y a le rasoir d'Occam, hein, c'est-à-dire que dès qu'il y a une solution simple, on la prend. Et l'avantage de la matière noire et de l'énergie sombre, c'est qu'avec deux ingrédients en l'occurrence, on arrive à rendre tout cohérent. C'est-à-dire qu'on pourrait rajouter des dizaines de bouts de théorie, de bouts de trucs, ça pourrait marcher, mais on préfère la simplicité. Donc on est à la fois coincé et pris dans cette élégance et cette simplicité.
Hervé Dolle, est-ce que nous avons perdu la nuit, comme le dit Pierre Lénat dans la préface de votre livre ?
Oui, malheureusement, Pierre écrit beaucoup mieux que moi, et je le salue s'il nous écoute. Nous avons perdu la nuit, et justement, avec les élections municipales qui ont lieu en ce moment, c'est l'occasion pour les citoyens de dire...
Éteignez.
Ça coûte cher, ça sert à rien. Toutes les études montrent qu'il n'y a aucune corrélation entre les incivilités, l'insécurité et l'extinction nocturne. Référez-vous aux études qui existent. C'est bon pour la planète, c'est bon pour l'humain surtout, et c'est bon pour la biodiversité également.
En quoi c'est un problème alors finalement d'être plongé dans cette lumière permanente là ?
C'est d'abord un problème physiologique pour les humains, parce que finalement on a besoin de l'obscurité.
Et pour les non-humains aussi d'ailleurs, hein.
Oui, mais bien sûr, oui. Je commence par les humains, parce que c'est plus facile. Mais oui, bien sûr, pour la biodiversité, que ce soit les plantes, les animaux, etc. Donc il y a déjà un enjeu de santé publique et de biodiversité. Et puis, il y a des aspects économiques, hein, ça coûte moins cher de couper la nuit, etc. Et puis, il y a des aspects culturels et de l'imaginaire. On est dans une société où il y a beaucoup moins d'imaginaire, on voit avec la société un peu pourrie dans laquelle on est et toutes les mauvaises nouvelles, il y a beaucoup moins d'imaginaire. Et le fait de se reconnecter à la nature, les forêts, etc., et au cosmos, ça a été montré que ça aide la population à se sentir mieux. Et puis... la notion d'être dans un tout passe par voir le cosmos. Oui. Et puis, ça évite les lubies de certains technofascistes ou astrocapitalistes de vouloir coloniser d'autres planètes, alors qu'on est très bien sur Terre, et voir le cosmos participe de ce grand tout.
Et on peut très bien voir le cosmos depuis la Terre. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs toute la semaine passée, puisque vous étiez avec vos étudiants à l'Observatoire de Haute-Provence.
Exactement.
Là où a été détectée, je vais y arriver, la première exoplanète.
Exactement.
Par Michel Mayer et Didier Queloz. Qu'est-ce que vous avez fait avec vos étudiants ? Qu'est-ce que vous avez vu alors ?
Alors avec mes étudiants, on était à l'Observatoire de Haute-Provence, du CNRS et de AMU, que je remercie. On a vu des galaxies, des astéroïdes, des amas d'étoiles, et mes étudiants, avec mes collègues, ont réussi à confirmer un astéroïde qui a tout juste été découvert, qui va passer peut-être proche de la Terre, qui a une orbite proche de la Terre.
Et tout ça malgré un temps pourri. Hein.
Malgré un temps pourri, voilà, nous avons eu quand même une nuit et demie, donc merci la Provence et merci l'OHP.
Hervé Dolle, vous avez été impliqué dans plusieurs missions spatiales, comme Planck, Euclide ou James Webb, et vous décrivez le moment du lancement d'abord d'un satellite comme un moment d'une rare intensité. Qu'est-ce qu'on ressent quand des années de travail partent dans le ciel au bout d'une fusée ? Parce que finalement, c'est ça dont il s'agit.
C'est ça. On flippe, en vrai, on flippe vraiment. Donc je préfère voir les lancements des missions spatiales des copains que les miennes. Ouais. On est trop stressés. Alors on a confiance aux ingénieurs, aux agences spatiales, aux opérateurs. Hein,
parce que c'est des années de boulot, en fait. Hein.
Un projet spatial, c'est une vingtaine d'années, des centaines de personnes, des scientifiques, des techniciens, des ingénieurs, des administratifs, des industriels, tout un écosystème économique. Hein, il n'y a pas seulement la recherche. Et le jour du lancement, on est un petit peu, nous, les scientifiques, comme des enfants à regarder, impuissants, et on voit la magie de l'expertise humaine envoyer un instrument à dizaines de kilomètres par seconde, s'échapper de la Terre et ouvrir ses yeux vers un univers inconnu et inaccessible depuis le sol. C'est des moments dont on se souvient toute sa vie.
Prenons l'exemple de Planck, le satellite. Le 14 mai 2009, c'est le lancement. On écoute pour en parler une archive de France Télévisions. C'était 2 ans plus tôt, en février 2007.
Une fois positionné à 1,5 million de kilomètres de la Terre, la fabuleuse mission du satellite Planck pourra commencer. Jour après jour, il va en effet scanner le fond de l'univers. Sur 360 degrés, l'image de la matière qui s'est dégagée juste après le Big Bang, va alors apparaître. À l'avant du satellite, un magnifique télescope. Pur comme du cristal, il va capter le signal émis, voici 13 milliards d'années.
Hervé Dolle, vous avez un souvenir particulier de ce lancement-là ?
Séquence émotion, oui. Alors j'étais à Orsay, mes collègues étaient partis à Kourou. Ah oui, on était vraiment mais hyper stressés et je me rappelle, on avait gonflé des ballons, on ne savait pas quoi faire, puisqu'on avait invité toute l'université à venir partager ce moment avec nous. On s'en souvient et c'était alors très très dur parce qu'on était très stressés, mais ça s'est super bien passé. Et puis au bout de quelques minutes après le largage de Herschel puis Planck, on a reçu la télémétrie, c'est-à-dire les premiers signaux que Planck vivait bien et... Ça commençait à être un soulagement, mais il y avait encore beaucoup d'étapes après. Il fallait lancer le refroidissement à 0,1 Kelvin. Et quand on a vu que la température baissait les semaines d'après et qu'on allait avoir une mission extraordinaire, c'était des moments extraordinaires d'intensité et d'excitation.
À quelle distance ?
Alors Planck était, tout comme Euclide et James Webb en ce moment, et Gaïa l'était aussi, et Herschel, à 4 fois la distance Terre-Lune. On appelle ça le point de Lagrange L2 du système Terre-Soleil. Donc c'est 1 500 000 km de la Terre derrière la Lune. Mmh. Pour que... La Terre, la Lune et le Soleil soient toujours dans le dos du satellite, ce qui permet une stabilité thermique et d'avoir une qualité d'image absolument incroyable.
La première image, d'ailleurs, elle est arrivée quand ?
La première image alors, de Planck est arrivée alors, quelques semaines après. Alors, c'était une image un petit peu particulière, c'était une bande de ciel où on a tout de suite vu le fond cosmologique à une précision 1000 fois meilleure que tout ce qui avait été fait auparavant. On était vraiment scotchés. Et... Parce que, entre ce qu'on prédit, parce que du coup, c'était prédit, hein, enfin, on est des scientifiques quand même, il y a des ingénieurs et tout, mais entre ce qui est prédit et quand on voit vraiment les données, on se dit ouf.
Ça, c'est de la recherche fondamentale.
Complètement
quand
fondamentale.
Quand on envoie un satellite comme ça dans le ciel, c'est pour la connaissance pure de la science. Et on entend parfois certains et certaines dire cet argent, est-ce qu'il ne devrait pas aller plutôt à des problèmes plus concrets pour nous terriens ? Comment vous répondez à cette question qui vous est souvent posée
et qui est complètement légitime. Ma réponse est celle d'une partie du monde scientifique est la suivante. En fait, ce sont des choix de société de faire des dépenses gouvernementales. Il y a l'aide sociale, l'éducation, la recherche, les militaires, on en voit en ce moment, les baisses d'impôts, on le voit en ce moment. Donc en fait, si on fait la somme de toutes les dépenses que fait une société, on se rend compte que la recherche, c'est moins de 2%, ça devrait être 3%, hein, mais c'est moins de 2% pour la santé, les maladies, les nouvelles technologies, etc. Donc, effectivement, on pourrait faire beaucoup plus, peut-être, je ne sais pas, moins de baisses d'impôts. Enfin, alors là, c'est le citoyen qui parle, hein, ce n'est pas le scientifique. Donc, en fait, c'est un choix de société. Et donc, une partie de cet argent qui est...
Moins de baisses d'impôts, je ne sais pas qui va être d'accord avec vous, Hervé Dolle, quand même. A priori, on est plutôt tous d'accord pour payer moins d'impôts, non ?
Non, j'en fais partie. Ceux qui ont les moyens peuvent payer plus d'impôts, mais ça, c'est un acte citoyen. Donc, en fait, il y a beaucoup de moyens qui existent. Et donc, c'est une question de répartition. Et cette recherche fondamentale, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas un panier percé. En fait, tout l'argent qui va à la recherche fondamentale, donc à nous, les universités, les organismes, ça va pas dans nos poches, ça va dans un écosystème, ça retourne à l'économie, parce que du coup, on fait bosser des entreprises de haute technologie, on fait bosser des entreprises de travaux, enfin, tout un tas de choses. Donc en fait, pour 1 euro investi dans la recherche, ça redonne plusieurs euros, alors j'ai pas le chiffre exact, je vais pas dire de bêtises, mais plusieurs euros à l'écosystème.
Vous vous définissez comme un tueur de modèles.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est frappant comme formule, quand même.
Y compris les miens. Ben, on fait des modèles, donc il y a la grande théorie qui existe, hein, la relativité, etc. Mais pour décrire, par exemple, comment une étoile, une galaxie se forme, forme des étoiles, etc., on est dans un monde un petit peu plus flou, on appelle ça des modèles, c'est comme des recettes de physique qu'on essaie de comprendre et de mettre en place. Et puis, on fait des prédictions, on se dit, les galaxies vont se former comme ça, il va y avoir tant de lumière, etc. Et quand un nouveau satellite arrive, ou une nouvelle observation, on peut voir si on avait raison ou pas. Et donc, moi, ce qui me passionne, c'est avec les nouvelles observations, donc Planck à l'époque, James Webb et Euclide en ce moment.
C'est de tuer vos propres modèles
Alors, ceux des autres d'abord, mais les miens aussi.
Vous êtes un peu maso, non
c'est comme ça que ça avance, hein, voilà. Ouais. Et en fait, on se rend compte souvent, et alors ça, c'est très important, que l'univers est beaucoup plus original que nous. Par exemple, James Webb a découvert des galaxies très massives. Ça défrayait la chronique il y a quelques années. En fait, on s'est rendu compte que ça ne viole aucune loi de la physique. C'est juste nous, les scientifiques, qui n'avions pas vu tous les bons paramètres et on n'avait pas été aussi original que ce qu'on observe.
Hervé Dolle, on va revenir dans un instant aux origines même de notre univers pour en explorer le côté obscur. Et puis, vous allez dialoguer avec les auditrices et les auditeurs en lisant ces messages, en répondant à ces questions. Vous nous rejoignez sur franceinter.fr, la page de la Terre au carré, nos réseaux sociaux et l'appli Radio France.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au carré.
Voici la première photo précise des tout débuts de l'univers. Elle a donc été prise par le satellite Planck lancé il y a 3 ans. Bonsoir Nicolas Châteauneuf. Alors vous allez nous aider à la comprendre. Cette photo, en quoi est-elle exceptionnelle d'abord?
Alors David, cette photo est exceptionnelle tout simplement parce que c'est un instantané, une photographie quasi parfaite de l'univers tel qu'il était il y a plus de 13 milliards d'années. Nous sommes exactement 380 000 ans après le Big Bang, les débuts de l'univers. L'univers est sombre et tout d'un coup, eh bien, la lumière va jaillir. Et un peu comme un flash qui s'imprime, vous savez, sur vos rétines pendant un certain temps, eh bien, cette lumière est encore visible aujourd'hui sous la forme d'infimes variations de température dans l'espace. C'est justement ce qu'on voit sur cette photographie de Planck.
Voilà, première image de Planck en 2013, Hervé Dolle, on en parlait avec vous tout à l'heure, vous qui êtes astrophysicien, et qui publiait Le côté obscur de l'univers, ça sort en poche chez Duno, l'histoire donc de notre univers commence il y a 13,8 milliards d'années.
Oui.
Cette photographie-là, elle en témoigne?
Elle en témoigne complètement. Alors une petite correction, en fait l'univers était déjà très brillant, c'est juste qu'il était opaque, un peu comme au centre d'une étoile aujourd'hui, où la lumière met du temps à sortir. Donc il était très brillant, mais cette lumière a été relâchée 380 000 ans après le Big Bang, et c'est effectivement cette lumière qu'on voit aujourd'hui. Et en fait, il faut imaginer qu'en fait, on est dans l'univers. Ce n'est pas une lumière qui nous vient de l'au-delà, etc.
Nous en faisons partie.
Nous en faisons partie. Elle est autour de nous. Alors évidemment, elle est un peu difficile à voir. Il y en a un peu moins et les photons sont très froids. Mais effectivement, c'est une preuve du modèle du Big Bang qui a été élaboré entre les années 1940 et les années, en gros, 80. Et on arrive à expliquer cette lumière que par la présence d'un univers très petit dans le passé, hyper chaud, et alors à l'équilibre thermodynamique. Et quand on prend cette hypothèse, donc c'est le modèle du Big Bang, hein, ou la théorie du Big Bang, eh ben on se rend compte que tout marche. On arrive à reproduire, enfin à prédire ce qui se passe dans cette image avec les petites variations colorées. Hein, vous avez peut-être vu cette image qui est orangée et bleutée quand on met des fausses couleurs. Et ça traduit que, au tout début de l'univers, l'univers vibrait comme des bulles de savon. Et ces petites bulles de plasma, en l'occurrence, ben, au bout d'un moment, sont devenues des amas de galaxies, des galaxies et nous.
Mais l'âge de l'univers, comment est-ce que les scientifiques peuvent être aussi précis sur cet âge?
Alors, on est hyper précis parce qu'on le connaît à 0,3% près, donc 13,8, 13,119 milliards d'années, parce qu'on a un modèle. En fait, ce qu'on fait, c'est comme parfois à l'école ou à la fac, vous faites des mesures dans un TP et vous faites passer une droite dans vos données. Nous, on a un modèle d'univers, donc le modèle du Big Bang, et on fait passer nos données dedans. Et donc, il y a une adéquation, on trouve un âge ultra précis. Ce qui veut dire que si, à l'avenir, on avait un nouveau modèle d'univers, aujourd'hui on ne voit pas trop, mais il ne faut jamais insulter l'avenir, surtout en science, eh ben on pourrait avoir un autre modèle qu'on réajusterait sur les données et peut-être qu'on pourrait avoir un autre âge. Mais en tout cas, dans le cadre de ce modèle du Big Bang, ça donne un âge très très précis parce que l'expansion de l'univers, elle n'est pas infiniment rapide, on arrive à la mesurer et donc on obtient un âge. Ouais.
Le fond diffus cosmologique, hein, c'est donc cette lumière visible des tout débuts de l'univers, 380 000 ans après le Big Bang. Et alors, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on peut toujours voir aujourd'hui cette lumière. C'est ça ce que
on est
vous
dedans,
expliquez.
On est baigné, c'est ça. Ouais. On est baigné, c'est un peu comme... Alors, c'est difficile de donner une image du Big Bang et l'univers en expansion, mais c'est un peu comme si on était dans un ballon en expansion. Alors, l'image est mauvaise, parce qu'il y a plein de problèmes avec ça, mais c'est comme si on était dans un ballon d'hélium en expansion. L'hélium, il est toujours avec nous à l'intérieur. Voilà, c'est une mauvaise image, mais c'est un peu pour donner une idée. Cette lumière est autour de nous. Il suffit juste d'aller un peu quand même dans l'espace pour la choper. Mais elle est autour de nous.
Oui, mais depuis la Terre, on peut la voir ou pas?
Oui, on peut la voir.
Avec du matériel grand public, c'est ce que vous expliquez.
Mais exactement.
Qu'on peut détecter ces traces-là.
Exactement. On fait des TP à l'université.
Le plancher des vaches.
Voilà, exactement. Mon collègue Michel Pia à Paris-Cité, et puis on essaie de faire des TP aussi à Paris-Saclay là-dessus, avec les étudiants, avec une antenne satellite moderne et une électronique un petit peu modifiée, on arrive à reproduire l'expérience de Penzias et Wilson de 1965, où ils ont découvert ce fameux fond cosmologique. Et en mode TP, on arrive à retrouver le rayonnement du corps noir de 3 Kelvin, donc le rayonnement fossile, ce fond cosmologique, en TP aujourd'hui, en une demi-journée, alors qu'évidemment, ils ont le prix Nobel, c'était formidable.
C'est ça. Donc vous reproduisez le prix Nobel. Alors, vous parlez de bulles de savon, vous parlez de pendules aussi.
Oui.
Pourquoi vous utilisez ces métaphores?
Parce que alors, c'est ça que je trouve magique en science, c'est que, en physique en particulier, ce que je connais mieux, avec une seule équation, il se trouve que c'est une équation différentielle, on arrive à expliquer plein de phénomènes. Et cette équation différentielle, alors sans aller dans les détails, c'est la même équation qui régit un pendule qui se balade, mm-hmm. comme Galilée l'avait fait, une bulle de savon qui vibre, ou l'univers qui vibre au tout début, ou même le soleil ou les étoiles qui vibrent. C'est la même forme d'équation. En gros, pour ceux qui connaissent, la solution est en cosinus, hein, c'est une variable qui oscille. Et on peut décrire les oscillations du tout début de l'univers de la même manière qu'un pendule aujourd'hui qu'on aurait sur sa table. Ouais. Enfin, et alors évidemment, les paramètres sont un peu différents. Hein. Tout l'univers versus un petit pendule, c'est pas la même masse, etc. Mais la forme de l'équation et la physique sous-jacente se ressemblent énormément.
Donc, ce sont les vibrations de l'univers primordial.
Complètement. C'est comme un tambour qui vibre ou une surface d'eau qui vibre, sauf que là, c'était un plasma, donc des particules chargées qui vibraient. Ouais. Alors, quand ça vibre, c'est qu'il y a deux forces, hein. Une force qui contracte, une force qui pousse. La force qui contracte, c'est la gravitation, qu'on connaît bien en astrophysique. Et la force qui pousse, qui empêche, c'était la lumière qui empêche la lumière de se concentrer trop fort. On appelle ça la pression de radiation.
Hervé Dolle, est-ce que le rayonnement fossile, il n'y en a qu'un ? Ou est-ce qu'on en a découvert d'autres ?
Oui, on en a. Alors, c'est pour ça que je prenais du temps. Il y a plusieurs rayonnements fossiles. Alors, le vrai rayonnement fossile issu du Big Bang, c'est ce dont on parle, le fond cosmologique. 1380 000 ans après le Big Bang. Après, dans l'histoire de l'univers, on la comprend de la manière suivante. Il y a un âge sombre où il n'y a pas encore d'étoiles, puis les étoiles naissent, elles forment beaucoup de lumière, et puis après, les galaxies naissent. Et aujourd'hui, toute cette lumière des étoiles passées et des galaxies passées, elle n'a pas disparu. Elle forme un fond de lumière, et donc c'est un autre fond cosmique. J'ai beaucoup travaillé dessus également, ouais. Ça s'appelle le fond infrarouge de galaxies.
C'est ça. Pourquoi on le connaît moins, celui-là, alors ?
Parce qu'il se rapporte plus à l'histoire des galaxies, qui est peut-être un tout petit peu moins excitant que l'histoire du Big Bang, pour le grand public, ce que je peux comprendre. Mais cette lumière infrarouge, ce fond infrarouge, finalement, il capture... toute l'histoire de la matière ordinaire, parce que c'est la matière ordinaire qui rayonne comme ça. Ouais. Et donc, pour nous, c'est super intéressant de voir comment les galaxies se sont formées.
Il a été découvert par des équipes françaises.
Hein. Il a été découvert par mon directeur de thèse, Jean-Loup Puget, que je salue de l'Académie des sciences.
En 96.
En 96, voilà, avec toute une équipe à Orsay, de l'IS. À l'époque, c'était Paris-Sud, maintenant c'est l'Université Paris-Saclay. Alors, c'était confirmé par les Américains, il y avait un petit débat à l'époque, en 98. Mais oui, sur des données d'un satellite qui était formidable, qui s'appelait Kobe. Et puis, en analysant finement les données, les collègues ont réussi à avoir ce rayonnement tout à fait ténu qui témoigne de l'histoire tumultueuse des galaxies.
Et là, on est dans l'infrarouge, en fait.
Et là, on est dans l'infrarouge pour les mêmes raisons que le fond cosmologique. À cause de l'expansion de l'univers, la lumière est décalée vers le rouge. Et ce fond infrarouge, il est dans l'infrarouge pour deux raisons. D'abord, l'expansion de l'univers, mais aussi parce que finalement, les galaxies sont assez froides. Il y a bien sûr les étoiles, mais les étoiles, il n'y en a pas tant que ça. Il y a surtout de la poussière dans les galaxies qui, en fait, rayonne dans l'infrarouge.
Et qu'est-ce que ça nous raconte, justement, de la formation des étoiles dans l'univers ?
Eh bien, ça nous raconte un truc auquel on s'attendait moyennement, qu'on voit quand même dans l'univers local, c'est qu'il y a beaucoup de formations d'étoiles, et cette formation d'étoiles, elle se fait de manière opaque. C'est-à-dire que les étoiles naissent dans des cocons de matière, de molécules. Eh bien, ces molécules... elles absorbent la lumière visible, en fait elles cachent les étoiles, et en se réchauffant, ces molécules émettent dans l'infrarouge.
Donc ce sont des pouponnières obscures.
Ce sont des pouponnières obscures, voilà. Et donc ça ramène dans l'infrarouge. Alors on savait ça depuis longtemps, qu'il y avait de l'infrarouge, mais on ne savait pas que c'était dominant depuis... notamment mes travaux, il y a une vingtaine d'années, et d'autres après avec Herschel. Et donc on a compris que ce côté obscur de la formation stellaire était dominant. Ouais.
Parmi les grands résultats de Planck, on s'en souvient parce que c'est très récent, mm-hmm. dans l'histoire des sciences, il y a la confirmation de l'inflation cosmique. Exactement. Et la mesure très précise de la composition de l'univers. On en a parlé un peu tout à l'heure rapidement. Alors selon ces résultats, de quoi est réellement fait l'univers et est-ce que ces proportions vous ont surprise ?
Alors, la composition de l'univers, c'est à peu près 5% de matière ordinaire, 26-27% de matière noire et le reste d'énergie sombre. En vrai, quand on a conçu le satellite Planck, alors moi je suis arrivé au milieu de l'histoire parce que ça s'est fait avant moi, on pensait secrètement tuer le modèle cosmologique avec cette matière noire un peu bizarre, cette énergie sombre. Et en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est à confirmer de manière extraordinaire que tout ça marchait bien. Donc on n'a pas été surpris par les valeurs, mais on a été surpris de voir à quel point ça fonctionnait super bien. C'est-à-dire que nos données qui étaient uniques, qui étaient vraiment exceptionnelles, ne dérogeaient pas à ce modèle qui a fait un petit peu de briques et de brocs. Hein, le
modèle standard.
Modèle standard de la cosmologie qu'en fait on a conforté parce qu'on n'a pas réussi à le démonter. Donc c'est plutôt ça qui nous a surpris. Après, les valeurs, elles étaient un petit peu attendues.
Il n'y a eu aucune tension justement entre les mesures cosmologiques de Planck et le modèle standard. Il n'y a aucun moment où...
Alors c'est un peu patouillé parce que pardon pour ce terme, mais les mesures d'avant étaient un petit peu moins précises, etc. Donc on a un petit peu dû changer quelques paramètres, mais en gros ça allait. Ce qui change maintenant, c'est qu'il y a des nouvelles mesures qui tendent à effectivement aller un petit peu plus loin et montrer que par exemple la constante cosmologique n'est plus constante. Ouais. Ça c'est assez rigolo.
On redonne la répartition, Hervé Dole.
À peu près. Alors, 5% de matière ordinaire,
celles qui nous composent.
J'ai une analogie avec le couscous si on a le temps.
Mais bien sûr, avec plaisir.
27% de matière noire et le reste 60 et quelques% de matière sombre. Alors d'énergie sombre, pardon.
L'univers. C'est quoi cette histoire de couscous?
Alors c'est quand je présente aux gens puisqu'ils me disent mais comment ça se fait qu'on connaît que 5% alors qu'autour de nous on voit quand même un peu tout ce qui se passe. Donc l'univers c'est un peu comme un couscous. Nous on serait comme un pois chiche. Le système solaire, etc. C'est-à-dire que nous, on vivrait dans un pois chiche qui est la matière ordinaire, 5%. Alors, je fais l'hypothèse que dans un couscous, il y a 5% de pois chiche. Hein. Vous me pardonnerez si ce n'est pas exactement la bonne proportion. Quand on va un peu plus loin que notre système solaire, on va dans la Voie lactée. Là, on retrouve, par exemple, des légumes. Les légumes, c'est la matière noire, 27%. Et puis, tout d'un coup, on va un peu plus loin dans le couscous et on voit la semoule qui domine. Alors, je fais l'hypothèse qu'il y a plus de semoule que du reste. Et ça, c'est l'énergie sombre. Donc, vous, si vous vivez dans un pois chiche, vous ne voyez pas l'énergie sombre et la matière noire parce que vous vivez dans votre petit pois chiche. Donc, c'est notre système solaire. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on arrive à estimer combien il manque, même si nous, dans le système solaire, on voit que de la matière ordinaire.
Ouais. Vous mettez des raisins, vous, dans votre couscous?
Oui, ou pas aussi. Moi aussi. Mais j'en ai pas parlé là. Parce que...
ça complique l'équation.
Ça complique les choses. La harissa, tout ça. Enfin, voilà. Après, si la harissa, ça peut être les photons. Voilà.
Hervé Dole, on se retrouve dans un instant. On va poursuivre cette discussion autour du côté obscur de l'univers.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Jadis, l'univers était considéré comme un cadre tout à fait stable et invariable, soumis seulement à des mouvements réguliers et périodiques. Eh bien, les progrès de l'astronomie et de la physique ont permis de constater et d'expliquer, ou de tenter d'expliquer, des transformations lentes et qui ne sont pas périodiques et qui ne sont pas régulières.
Jacques Merleau-Ponty, c'était en 1969, archives de France Culture. Hervé Dole, vous qui êtes notre invité, astrophysicien et auteur de ce livre, Le côté obscur de l'univers, qui sort en poche chez Duno. Malheureusement, il n'y a pas la recette du couscous. Hein.
Non.
Ce sera pour la prochaine fois, puisque vous venez de nous l'expliquer pour qu'on comprenne bien de quoi est composé
exactement
notre univers, entre pois chiches, semoule et légumes, même si on n'a pas parlé de merguez. Jacques Merleau-Ponty, ça vous inspire aussi, Hervé Dole?
Ah oui, toujours, oui. Avoir des penseurs des temps passés et actuels permet de mettre en perspective ce qu'on fait, parce que la science, elle n'est pas faite que pour les scientifiques, elle est faite pour tous les citoyens, pour tout le monde, pour toutes les époques. Et donc, on est ravis, en tant qu'astrophysicien et scientifique et physicien, d'apporter notre contribution à... j'allais dire enchanter le monde. En tout cas, décrire le monde. Après, les gens en font ce qu'ils veulent. Et effectivement, quand on a compris que l'univers était en expansion... qu'il y avait un début, qu'a priori il n'y aurait pas de fin, ça serait une expansion éternelle en quelque sorte, ça aide les philosophes, ça aide tout un chacun un peu à se projeter, et aussi à montrer l'unicité de la Terre sur laquelle on est, parce qu'on n'a toujours pas trouvé d'équivalent.
C'est ça.
Donc ça aide à penser le monde dans lequel on est.
Donc nous sommes très singuliers. C'est
nous
ça
sommes que... très singuliers. Alors,
jusqu'à preuve du contraire, encore une fois.
Jusqu'à preuve du contraire, hein. Toujours. Après, c'est pas gênant, on a le principe anthropique, le principe cosmologique qui dit que si on est là à en parler entre nous, c'est que la sélection a fait qu'on puisse en parler. Donc tous les échecs de la nature ou de la physique, on peut imaginer qu'il y a des civilisations, etc., qui n'ont pas abouti, du coup, ils ne sont pas là pour en parler. Donc nous, on est là pour en parler, c'est parce que les paramètres étaient bons pour nous. Donc il n'y a pas besoin, comme disait Laplace à Napoléon, « Sire, j'ai pas besoin de cette hypothèse en parlant de Dieu, ou etc. » On n'est pas obligé d'invoquer, on peut si on veut, mais on n'est pas obligé d'invoquer des forces surnaturelles pour expliquer la présence de la vie, même si on ne sait pas comment elle est apparue, et notre présence ici.
Oui. Sauf qu'il y a peut-être d'autres civilisations qui sont en train de discuter derrière un micro de radio sans qu'on en ait connaissance, parce qu'on n'a pas les outils ni les moyens de les déceler.
Hein,
ça, c'est une possibilité. Vous pensez souvent à vos ancêtres, je pense à Fritz Zwicky par exemple, un siècle quasiment. Ce sont des noms qui ont joué un rôle très important dans votre discipline.
Complètement. Ce sont des précurseurs, des pionniers qui, avec des moyens qu'on considère comme rudimentaires aujourd'hui d'observation, ont compris qu'il y avait des choses qui tournaient pas rond dans l'univers, et c'est Fred Zucchi, effectivement, dans les années 1930, qui a compris qu'il y avait probablement plus de masse dans l'univers que ce que l'on voit avec la matière visible, grâce au mouvement des étoiles dans les galaxies ou des galaxies dans les amas de galaxies. Ça tournait trop vite dans les galaxies, ça aurait dû, en fait, s'éclater, les galaxies, vous savez, spirales, vous avez des images de galaxies spirales, les étoiles auraient dû mais s'éclater, partir super vite parce qu'elles tournent trop vite par rapport à la masse et donc...
Mais ils nomment la matière noire ou pas?
Non, à l'époque c'était missing mass, la masse manquante.
Ouais.
Après, c'est devenu matière exotique et dans les années 70, Vera Rubin notamment a montré que ben, ça pouvait pas être baryonique, donc ça pouvait pas être de la matière ordinaire et puis on est arrivé à, avec Jim Peebles et d'autres à la notion de matière noire, c'est-à-dire on a essayé d'éliminer toutes les possibilités parce qu'il aurait pu y avoir des naines brunes, plein de matières ordinaires mais toutes petites qui rayonnent pas, et progressivement on a éliminé ces hypothèses avec des observations dédiées, et donc on se retrouve un peu coincé avec plein de masse, on ne sait pas d'où elle vient.
Quand on cherche à voir la matière noire, ce qui est quand même un enjeu important, vous expliquez qu'on peut utiliser différents effets,
complètement,
parmi lesquels la lentille gravitationnelle.
Ça, c'est assez formidable comme
technique. C'est quoi comme phénomène ?
La lentille gravitationnelle, c'est la propriété de l'univers à se courber quand il y a beaucoup de matière. Alors nous, on est massif, surtout après un repas de couscous, voilà, on dévie la lumière, mais pas beaucoup, c'est non détectable. Par contre, le Soleil ou les galaxies très massive, ouais, perturbe l'espace-temps beaucoup plus que nous. Et donc, s'il y a un rayon lumineux qui passe, il est un peu courbé, comme si on prend un drap et on met une boule de pétanque à l'intérieur, hein, ça courbe, et si on envoie une petite bille, elle tourne et, mm-hmm, et elle est déviée. Et donc, nous, on observe ces déviations très très fines de la lumière, qui nous permettent de dire, bah, la lumière a été déviée par quelque chose, c'est donc de la masse qu'on ne voit pas. On peut avoir l'analogie aussi avec un verre de vin. Si vous prenez un verre de vin rempli d'eau, par exemple, et que vous regardez un paysage derrière, vous voyez que le paysage est troublé par la lentille que constitue le verre de vin. Ben, nous, c'est pareil, sauf qu'au lieu d'être un verre de vin, c'est de la matière noire, certainement, ouais, qui dévie la lumière.
Sauf que toutes les détections directes ont échoué jusqu'à maintenant.
Jusqu'à maintenant, toutes les détections, ouais, directes ont échoué parce que c'est assez compliqué pour les collègues de physique des particules. Quand on fait une manip de physique des particules, on est sensible qu'à une classe de matière noire. Or, on n'a pas de prédiction, et il pourrait y avoir une dizaine d'autres classes, et donc les collègues se sont concentrés sur les particules massives pour commencer, ouais, et a priori, c'est pas ça qui fera le gros de la matière noire. Donc, les collègues sont en train de physique des particules, de trouver d'autres pistes pour avoir d'autres candidats.
Vous le verrez de votre vivant, à votre avis, ça, ou pas, une détection de matière noire directe ?
Alors, je sais pas.
Vous êtes jeune encore, Hervé.
Nous sommes tous jeunes, cher ami. Mais ouais, ça m'étonnerait que je le vois, mais après, c'est une, ouais, prédiction complètement gratuite, là. Oui, oui.
L'énergie sombre, encore plus mystérieuse,
oui,
que la matière noire.
Oui, parce que là, les gens nous demandent, oui, mais alors c'est quoi ? C'est en fait, c'est pas un truc matériel, c'est ce qu'on appelle un fluide cosmologique, c'est comme une, c'est pas un gaz non plus, c'est quelque chose qui fait une sorte de pression qui pousse l'univers à s'accélérer plus vite.
Mais comment on arrive à détecter quelque chose d'aussi insaisissable alors ?
Alors, on y arrive parce qu'on voit par exemple que les galaxies et donc les objets lointains dans l'univers, s'éloignent de nous de plus en plus vite, je vais vous la faire simple.
Ouais.
Et en physique, quand il y a un truc qui accélère, c'est jamais gratuit, c'est jamais par hasard. Et donc, dans nos modèles, si on met cette énergie sombre, que d'ailleurs Einstein avait mis puis retiré, et ben on se rend compte qu'on arrive à décrire ces mouvements à grande échelle, très très loin dans l'univers. Et donc, c'est une sorte de pression négative. Alors, quand je dis ça à mes étudiants, je leur dis de surtout pas raconter ça aux autres collègues de physique, parce que pression négative, c'est un concept un petit peu chaud en physique. C'est pas des trucs auxquels on a l'habitude. Mais si on met cette modélisation, ça marche très très bien. Donc en fait, c'est quelque chose de non matériel, je dirais.
Ouais. Vous revenez sur la détection des ondes gravitationnelles, hein, détectées en 2015, on s'en souvient dans la tête au carré, presque
bien, oui,
un siècle après leur prédiction par Einstein. En quoi cette détection a été fondamentale pour la cosmologie ?
Elle est fondamentale parce que quand on a une théorie qui marche pas mal, et qu'on a une prédiction hyper forte qui, enfin, est corroborée par des observations de manière non réfutable,
ouais,
c'est un grand pas en avant. C'est comme la détection des trous noirs, hein, le M87, il y a quelques, ouais, années. Quand on voit de manière observationnelle, avec des vraies données, ce qui était prédit, c'est un changement de paradigme complètement, enfin, majeur. Et la détection des ondes gravitationnelles, finalement, rendait la relativité générale complètement incontournable. Et pour nous, ça nous dépanne en cosmologie, parce que c'est un peu le concept de base.
Allez, on passe aux questions. Question des auditrices et auditeurs. Laurent vous demande, est-ce que vous pourriez nous expliquer le lien, Hervé Dolle, entre la matière noire, l'énergie sombre et les trous noirs ? dont vous parlez là.
Oui, alors pour faire simple, il n'y a aucun lien, sinon que le côté noir traduit soit notre ignorance, soit le fait qu'il n'y ait pas de lumière. Donc les trous noirs, dont je ne suis pas complètement spécialiste, c'est de la matière ordinaire qui est super condensée. Alors il y a des trous noirs stellaires qui sont issus des étoiles, et puis il y a des trous noirs super massifs au centre des galaxies. Ouais. Ça, c'est des choses, alors il y a encore des choses à comprendre, mais qui est un peu plus standard, et d'ailleurs les ondes gravitationnelles nous aident à découvrir une nouvelle classe. La matière noire, c'est cette fameuse matière qui gravite, dont on ne sait pas trop ce qu'elle est, mais on pense qu'elle n'interagit pas avec la lumière, d'où notre problème. On pense en revanche qu'elle interagit avec la force forte et la force faible. Pour ceux qui ont fait de la physique, c'est une partie des forces fondamentales. Au-delà de ça, on n'est pas sûr de savoir trop ce qu'il y a. Et c'est à des échelles cosmologiques. Et puis l'énergie sombre, on en a parlé, c'est ce qui provoque l'expansion accélérée de l'univers. Et là, on ne sait pas grand-chose.
Christian Demande, on parle souvent des limites de l'univers, mais sait-on ce qui se passe actuellement au centre de l'univers, origine du Big Bang? Est-ce que cette étincelle continue à être alimenté et à alimenter l'univers depuis son centre en matière et en énergie. Quand on parle d'ailleurs du centre de l'univers, on parle de quoi?
Alors je vais vous décevoir, il n'y a pas de centre dans l'univers. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est nous tous c'est l'univers qui s'étire dans tous les sens.
On se dilate?
On se dilate. Alors pas nous, pareil. Mais c'est à grande échelle. C'est l'espace-temps, c'est le réseau de coordonnées qui s'étire. Et on a l'impression, nous, pauvres humains, qu'effectivement il y a un centre et puis il y a un bord, etc. Mais la physique n'a absolument pas besoin de ça. Donc c'est en fait tout l'univers qui s'étire de partout. Ouais. Et donc il n'y a pas de centre. Par contre, pour le bord, je crois qu'il y a une question du bord ou de la finitude.
Est-ce que cette étincelle continue à être alimentée et à alimenter l'univers depuis son centre matière et en énergie?
Alors, donc il n'y a pas de centre. Par contre, l'expansion continue et ce qui nécessite effectivement la présence de cette énergie sombre pour expliquer l'expansion qui s'accélère. En revanche, il y a un horizon, on appelle ça l'horizon cosmologique. On pense que l'univers est peut-être infini, ça on le sait pas trop, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une limite d'observation, qu'on appelle l'horizon, un peu comme quand vous êtes à la plage, bah, y a un horizon, vous imaginez bien que la Terre est plus grande derrière, mais voilà. Et donc nous, on a un horizon, effectivement, c'est le fond cosmologique, on peut pas voir au-delà.
On va écouter une question sur l'appli Radio France, celle de Laurent.
Bonjour, Einstein disait, lorsque l'on comprend pas quelque chose, on crée une constante. Eh bien, il en va de même pour la matière noire et l'énergie noire, l'exemple du ballon. La seule chose que l'on peut définir, c'est l'énergie et ce que l'on ne connaît pas.
Merci Laurent pour votre question. C'est vrai ça qu'on crée des constantes quand on ne sait pas?
Alors c'est en partie vrai, c'est-à-dire qu'on essaie de ne pas créer de constantes justement, puisque dans la matière noire et l'énergie sombre, il n'y a pas de constante particulière. Mm-hmm. Mais effectivement, il y a un nouveau concept, mais on essaie d'éviter les constantes. Et c'est un des problèmes de la théorie alternative à la relativité, qui est la théorie de la gravité modifiée, qui permettrait d'expliquer la matière noire sans matière noire, où là, il y a besoin de rajouter des constantes. Donc les collègues le font, mais on essaie d'éviter.
Cécile demande si vous découvrez souvent des astéroïdes.
Alors oui, alors du coup c'est pas ma spécialité parce que moi c'est les galaxies, mais ma collègue Lucie Maquet à l'Observatoire de Paris avec qui j'ai observé la semaine dernière, on découvre grâce au télescope automatique plusieurs astéroïdes par jour et les collègues essaient de les confirmer chaque nuit.
Michel demande où est-ce qu'il faut aller en France pour pouvoir se sentir écrasé par la Voie lactée et les milliards d'étoiles?
Loin de toute agglomération, donc il y a la Provence, il y a le triangle noir vers le Lot, il y a plein d'endroits, mais effectivement il faut être loin de toute pollution lumineuse.
Et puis enfin Milo demande, est-ce que se plonger dans l'univers vous aide, Monsieur Doll, à relativiser les problèmes de nos sociétés actuelles?
Alors oui, c'est même une thérapie pour moi. Quand je m'occupe de mes galaxies, je ne vois pas trop ce qui se passe, même si on est des citoyens et on travaille pour la société avec nos étudiants. Bon. Mais effectivement, ça aide.
Donc on a besoin de lire Le côté obscur de l'univers que vous signez chez Dunod en poche.